partager ensemble la parole de Dieu pendant quelques instants, quelques minutes. Et cette semaine, je pensais, je réfléchissais, qu'est-ce qu'on pourrait partager comme thème, et surtout ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et ça a été confirmé par plein de prières, plein de louanges. J'aimerais vous parler du regard de Dieu. Comment Dieu nous regarde. C'est tellement important comment Dieu nous regarde, parce que son regard, évidemment, il est sur nous. Et c'est tellement important parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Quand on va réaliser de quelle manière le Seigneur nous regarde, ça va nous réconforter. Nous allons retrouver de la joie. On va retrouver un nouvel élan. Et le Seigneur, il regarde. Il n'y a rien qui lui échappe. Je l'avais entendu. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec Internet, ça va assez vite. On retrouve pas mal de choses. Je l'avais entendu. Je devais avoir une dizaine d'années. Quelqu'un, un jour, qui avait prêché et qui avait donné ce proverbe. Alors, c'est un proverbe arabe, mais qui dit finalement, évidemment, c'est pas dans la Bible, mais qui dit profondément comment le Seigneur, lui, il voit. Nous, on a une certaine capacité, mais le Seigneur, ses capacités, elles sont autres. Ce proverbe arabe dit « Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. » Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire, sur une pierre noire. En fait, la morale de ce proverbe, c'est que ça nous parle de l'omniscience et qui est totale de la part du Seigneur. Il voit tout. Des fois, on aurait tendance, nous, à faire certaines choses et à se dire, je mène ma vie comme bon me semble, et puis advienne que pourra. Mais le Seigneur voit tout. Et la seconde partie, finalement, nous dit que... on aura des comptes à rendre, chacun d'entre nous, pour tout ce que le Seigneur nous aura donné, tout ce que nous aurons fait, même les paroles qui auront été prononcées. Alors, il ne faut pas que ce soit comme une sentence, mais au contraire, comme le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, nous a avertis, alors nous voulons travailler à cela et dire, Seigneur, nous sommes sous ton regard. Et si nous sommes sous ton regard, alors on ne doit pas trembler. Et au contraire, on doit être dans la joie de se dire, Seigneur, donne-moi de faire encore ce que tu me commandes de faire. Alléluia. On va voir plusieurs regards. Alors, il y en avait tellement. Après, il faut faire le tri, parce qu'un temps, temps imparti, il y a des sujets, vous savez, qui sont vastes. Finalement, on ne fait que les effleurer. Peut-être qu'il y a certains thèmes, on a besoin d'y revenir. D'y revenir encore et toujours. Mais le regard du Seigneur, c'est tellement important. Le premier regard, c'est le regard de Dieu, c'est le regard qui voit le cœur. Je n'ai aucune capacité, vous n'avez aucune capacité de savoir ce qu'il y a dans mon cœur actuellement. Et vice-versa. Dieu, oui. Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. On lit un passage d'introduction dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous. 1 Samuel 16, verset 7. C'est le Seigneur qui parle et qui va dire ses paroles solennelles. Il dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur, parce qu'il regarde au cœur. Le contexte de ces paroles, on le sait, Saül, qui avait été choisi par le peuple, parce que le peuple voulait un roi comme les autres peuples. C'est comme ça qu'il a été élu, finalement, par le peuple. Évidemment, la volonté de Dieu était dans l'affaire, mais donc à un moment donné, vous savez, la gloire, le cœur de l'homme, pour garder c'est les choses que Dieu nous donne, c'est quand même assez terrible. On a des témoignages d'hommes de Dieu qui ont eu un ministère puissant, et puis ce ministère puissant, ça leur est monté à la tête, les chevilles se sont enflées, ils se sont attribués la gloire pour eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose à ne surtout pas faire ou reproduire, parce que la gloire revient toujours à Dieu. Dieu, alors ça peut-être choquer quelqu'un ce matin, ne partagera jamais sa gloire avec nous. Quelqu'un pourrait dire, mais quand même, parce que je dis ça parce qu'un jour, quelqu'un, je l'avais dit dans une prédication, était venu me voir dans un camp l'été. J'ai dit, non, le Seigneur ne partage pas sa gloire avec nous, il nous fait participer à sa gloire. Mais la gloire lui revient à lui seul. Et quand on s'attribue donc cette gloire, évidemment, ben, ça nous monte ça, à la tête. L'orgueil prend toute la place, on s'attribue donc les mérites et il va être exclu. Et à un moment donné, Samuel, lui, qui nous montre finalement l'humanité, le cœur de l'homme, qui voilà, voulait se rattacher un peu peut-être au passé, et il est en train de un peu de palabrer avec le Seigneur, en train de lui dire, mais Seigneur, mais quand même. Et le Seigneur, comme s'il mettait une sentence, laisse tomber. Parce que toi, tu vérifies, tu regardes, voilà, et tu as la capacité de, finalement de voir qu'avec tes yeux, mais moi, je regarde un endroit qui est tellement plus important. Le cœur. Et quand il est parlé de cœur, il est parlé de cette relation, d'un cœur entier pour le Seigneur. Parce que le cœur, il peut être partagé. Et il n'y a rien de plus terrible qu'avoir un cœur partagé. Le Seigneur veut un cœur tout entier. D'ailleurs, quand on donne notre vie au Seigneur, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va faire une transplantation cardiaque, mais spirituelle. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. La chair, ça représente, on a des sentiments, les sentiments d'amour pour le Seigneur. Alors ici, quand il est dit que Dieu regarde au cœur, il regarde quels sentiments nous avons pour lui. Quel amour nous déployons pour sa gloire. On ne peut pas finalement avoir cette relation d'amour si au préalable nous n'avons pas goûté à l'amour de Dieu, nous n'avons pas compris l'amour de Dieu déversé à un endroit à la croix du calvaire. Ça c'est l'amour au summum. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour moi, je le dis pour moi. Alléluia. Et s'il est mort pour moi, il est mort pour chacun d'entre nous. Et nous devons nous en souvenir. Donc le cœur, Dieu regarde au cœur. Regardez encore un autre passage, le psaume 139, versets 1 à 4. Psaume 139. Au chef des chantres, dans le psaume, il est de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Ce psaume 139, il est extraordinaire, alors évidemment, toute la parole de Dieu. Des fois, des versets comme ça, des passages qui viennent nous interpeller, parce que finalement, on s'identifie donc au cri du cœur. Et ici, David, il dit, mais finalement, Seigneur, tu connais tout de moi. Tu me sondes. Sonder, on sait que c'est une image pour à l'époque pour les bateaux où on jetait la sonde pour vérifier la profondeur. Il dit, Seigneur, je sais que tu me regardes en profondeur et tu me connais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va déclencher notre relation d'amour et ce cœur tout entier vis-à-vis du Seigneur, parce que être connu de Dieu, c'est quelque chose qui vient nous valoriser, qui viennent nous réconforter et qui viennent nous assurer finalement de sa présence. Être connu par le Seigneur. Amen. On retrouve finalement un peu ces similitudes dans le livre des Actes où à un moment donné, on va interdire aux disciples de propager cette fameuse nouvelle doctrine, cette fameuse secte. On va les empêcher de parler. Et puis il est dit, ils étaient connus. Ils ont été connus pour avoir été avec Jésus. Que Dieu fasse que dans notre témoignage, sans le proclamer, parce qu'aujourd'hui, il faut que les choses se voient. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, on n'a qu'une seule envie, ça c'est la chair, de le montrer, de dire, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, les réseaux sociaux, les vidéos, ceci, cela. Mais en fait, être connu de Dieu, c'est être dans l'intimité de la relation avec le Seigneur. Je suis connu de Dieu, alléluia, ça devrait nous faire bondir finalement, de dire, Seigneur, tu me connais. Tu sais quand je ne vais pas bien. Et c'est pour ça que le Seigneur, finalement, il se présente à nous comme quelqu'un, un ami. Il vient vers nous. Il vient nous réconforter. Vous avez remarqué que c'est dans les moments les plus finalement noirs de nos vies où on s'aperçoit que finalement, alors qu'on ne mérite rien, alors qu'on n'a pas été à la hauteur, alors qu'on a trébuché, encore le Seigneur nous lance un appel de miséricorde à venir à lui, à retourner à lui, alléluia, pour rétablir cette connexion, alléluia. Il continue en disant, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Est-ce que le Seigneur sait ce que vous pensez en ce moment ? Eh oui, hein, si vous pensez au poulet, bon, laissez cette pensée, le poulet du midi, ou autre chose, laissez ces choses-là. Les pensées, quand on parle de pensées, elles nous assaillent. Vous avez essayé de faire taire une pensée qui nous oppresse ? C'est terrible, hein ? On n'a pas cette capacité. Eh bien, je décide de ne plus y penser. Le fait de le dire, en fait, on y pense. Et puis on entretient ces choses-là. Là, on a besoin d'une intervention du Seigneur. Au niveau des pensées, Seigneur, sonde-moi, viens enlever toute pensée, ces pensées négatives, alléluia, et on peut retrouver cette joie du Seigneur. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, quand on parle de regard, le regard de Dieu, Dieu qui regarde au cœur, ben, on peut faire l'analogie avec le regard humain. Le regard humain, il est souvent limité, je l'ai dit tout à l'heure. Finalement, on peut se fier que ce que l'on voit, le Seigneur dit, ben, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il faut regarder ailleurs. Le regard humain est limité. Il est souvent influencé. Qui nous sommes, notre personnalité. Et la plupart du temps, on peut le qualifier comme superficiel, le regard de l'être humain. Mais le regard de Dieu, il est profond. On l'a vu hein, avec ce verset. Il vient nous regarder au plus profond d'entre nous. Le regard de Dieu, il est vrai. Le regard de Dieu, il est juste. Lui, David, il a été choisi, hein, on sait comment, il a été oint, la suite du verset qu'on a lu de 1 Samuel chapitre 16. Il a été choisi malgré l'apparence. Je ne sais pas si on imagine. Donc, il fait partie, c'est le dernier, d'une grande fratrie. Et puis, essayons de resituer un peu l'histoire. Hein. L'homme de Dieu, qui est reconnu pour être un homme de Dieu, ça a été certifié, ça a été évidemment approuvé par tout le peuple, vient, se déplace parce qu'il veut oindre le futur roi. Il rentre dans la maison. Donc, le papa de David. Et puis, il fait finalement ce qu'on aurait fait, chacun d'entre nous. Normalement, c'était la descendance, c'était comme ça, l'héritage. L'héritage spirituel, l'héritage familial. C'est l'aîné de la famille. Puis, il va faire venir l'aîné, quelqu'un qui avait sous tout rapport. Hein, on l'aurait sélectionné, nous tous. Et le Seigneur, non, 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 pas lui. Pourtant, le dernier. L'insignifiant, celui qui n'est même pas dans la maison, celui qui est relégué à des charges qui, normalement, c'était les serviteurs qui s'occupaient d'aller paître le troupeau. Mais le Seigneur, lui, il a vu son cœur. Il a vu son cœur quand il était tout seul, justement, dans les champs, en train de garder son troupeau, et qu'il a porté la louange à Dieu. « Je te loue ». Et puis à un moment donné, il va y avoir certaines révélations. Et comme s'il ne pouvait plus contenir, il y a certains psaumes qui viennent nous percuter. Certains, on les connaît par cœur. Mais si on les remet dans le contexte de sa jeune vie, un jeune homme qui finalement ne vivait que pour le Seigneur. Et puis ce fameux psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est comme s'il lançait ce message. L'Éternel, c'est mon berger, l'intimité. Et s'il est mon berger, alors je ne crains rien. Parce qu'il est avec moi. Et puis il fait l'analogie du fameux berger. Alors oui, le Seigneur a choisi David malgré l'apparence qu'il pouvait avoir. Pour chacun d'entre nous, soyons dans la transparence toujours. Ne gardons rien dans notre cœur parce que finalement le Seigneur voit toutes choses et que nous soyons transparents devant le Seigneur. Vous savez, des fois, nous, on est, comment on pourrait le dire, politiquement correct. Ça ne va pas dans notre vie. Et puis, il y a comme une certaine façade. Seigneur, je te loue, je fais ceci. Seigneur, je fais cela. Et des fois, on a simplement besoin de dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je traverse une difficulté. Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai besoin de déposer certains fardeaux. Et là, on est plus dans la transparence. Parce que finalement, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Dieu vivant et vrai. Et nous devons l'apprendre. Nous devons apprendre à déposer ces choses et faire confiance au Seigneur. Parce que finalement, si on vient avec des revendications, faire confiance que Dieu est amour, il veut le meilleur pour nous. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes là ce matin, Dieu veut le meilleur pour vous. Que ce soit vraiment ancré dans nos vies. Donc soyons transparents, laissons le Seigneur sonder nos cœurs et justement les transformer, changer ce cœur dur comme de la pierre à un cœur malléable. Pas malléable par les choses que l'on subit, mais malléable par le Seigneur. C'est lui qui façonne finalement notre cœur. Alléluia. Alors, quand on parle de cœur, c'est le second point, le regard de Dieu pour nous tous, c'est un regard qui aime. Qui aime d'un amour tellement bouleversant. S'il y a des thèmes difficiles à prêcher, et pourtant, ça pourrait sembler simple, difficiles à apporter, à vous apporter, c'est l'amour de Dieu. Avec quoi pourrait-on comparer l'amour de Dieu? Il n'y a pas d'équivalence, en fait. On pourrait avoir un exemple dans une relation, mais il serait bien en deçà de ce qu'est réellement l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous voit. Et il nous voit avec un amour inconditionnel. Inconditionnel, sans condition de quoi que ce soit. En fait, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec toi. L'amour de Dieu, Dieu ne peut pas faire autre chose que de vous aimer. Il nous aime de cet amour inconditionnel. Alors ça va nous déculpabiliser de tomber dans certains rites. Certaines choses voilà, qu'on fait mécaniquement, mais ça nous rapproche du Seigneur et avoir cet amour, et on réalise qu'il est inconditionnel. Il y a des versets bouleversants dans la parole quand il est dit qu'avant la fondation du monde, déjà il pensait à nous. Si ce verset-là, il ne vient pas nous percuter, je ne sais pas, il reste encore un peu de dureté de ce fameux cœur de pierre. Cet amour de Dieu, il est inconditionnel. Le regard de Dieu n'est jamais accusateur. Il n'est jamais pour nous accuser dans le mauvais sens du terme. Il est rempli de compassion. Et Jésus qui est venu pour révéler les œuvres du Père, voyant la foule, il était ému de compassion parce qu'il avait un autre regard, un regard d'amour. Ça a été dit dans une louange ce matin. Je crois que c'est Michel qui l'a dit dans sa louange tout à l'heure. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Regardez avec quel message il vient. Je t'aime. D'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Soyez-en pleinement convaincus parce que c'est la vérité, évidemment. Dieu nous regarde avec un cœur rempli de compassion, de fidélité et de grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, pour révéler le cœur du Père, à un moment donné, donc il va y avoir cette révélation, encore une fois, de la part de David dans les psaumes. Le psaume 103 aussi, il est extraordinaire. Tout à l'heure, je parlais du psaume 23. Mais le 103, il est pas mal aussi, regardez. Psaume 103, versets 8 à 14. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Vous connaissez quelqu'un qui conteste toujours? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Regardez maintenant. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père, regardez l'image ici, a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ici, il y a cette image de l'amour du Seigneur quand il est dit, ben, en fait, le Seigneur, il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère, il ne nous traite pas selon nos péchés, ça c'est la miséricorde du Seigneur, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce que quelqu'un ici a la capacité de regarder au ciel et de dire, ben voilà, le ciel, voilà, et c'est cette dimension-là. Personne. Surtout aujourd'hui, cette semaine, hein, vous l'avez vu dans les infos, hein, avec donc ce voyage dans l'espace. Mais alors, même eux qui sont là maintenant dans l'espace, ils ne peuvent pas sonder l'étendue du ciel. Et ici, il y a cette comparaison de l'amour de Dieu. Et il va plus loin, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Est et l'Ouest, qui peut mesurer l'Est et l'Ouest? Personne. Mais le Seigneur, il éloigne de nous nos transgressions. Alors ça va nous réconforter ce matin de savoir que souvent, en tout cas je parle pour moi, ben on transgresse encore. Ça pourrait vous surprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, en pensée. Ah, des fois un acte aussi. Parce qu'on reste perfectible. Vous avez vu la fin du verset 14, il se souvient que nous sommes que poussière. Mais notre responsabilité, c'est de toujours revenir vers Dieu et demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Et quand on demande pardon, comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Je ne sais pas quel père ici au milieu de nous. Si son fils fait la pire des bêtises, vient vers lui, lui demande sincèrement pardon, il va dire mais non, c'est terminé. Peut-être, hein. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu vient et il nous accorde son pardon. Et quand il accorde le pardon, il nous rétablit dans la position qui était la nôtre. Des fois, on aurait tendance, hein, parce que des fois, le Seigneur nous a pardonné et on vit encore comme quelqu'un de coupable. Alors que le Seigneur nous a libérés de tout cela. Et on doit le vivre, évidemment. L'amour, donc, c'est humain. L'amour humain, il est conditionnel. L'amour humain, il est fragile. L'amour de Dieu, il est éternel. L'amour de Dieu, il est stable. Vous connaissez des personnes qui, un jour, il semblerait que, voilà, il y a cet amour fraternel, et puis la fois d'après... Et ça, c'est l'amour humain, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est révélé par une image. Et c'est Jésus qui va le révéler. Avec la parabole du fils prodigue. Elle est toujours bouleversante. On s'en sert souvent comme dans des réunions dites d'évangélisation. Le cœur du Père, voilà, celui qui s'est éloigné. Et c'est également valable pour chacun d'entre nous. Combien de fois on a voulu prendre notre indépendance? Vous savez, quand on est à la maison du papa, de la maman, on en a parlé avec les ados la semaine dernière, à un moment donné peut-être, on dira ces paroles, « Ah, quand j'aurai 18 ans, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais partir, j'en ai marre, je veux partir au loin. » Un jour, quelqu'un l'a fait, donc c'est l'image, c'est l'histoire de ce fils prodigue. Il demande, il manque un respect terrible à son père, à toute sa famille. Lui demande l'héritage et puis il part. Il part loin, aussi loin que possible de la maison familiale. Puis à un moment donné, il est dans le besoin. Et on sait que chaque être humain ne peut pas vivre sans être aimé, sans l'amour inconditionnel du Père. C'est impossible. Et donc, le Père, lui, il laisse... Alors, ça nous déstabilise souvent, en tant que parents, à un moment donné, de laisser aller nos enfants. Des fois, on les retient, voilà, il faut avoir le discernement. Et de dire, mais il faut qu'ils fassent ses propres expériences. Souvent, on a voulu garder les enfants dans l'église. Ils vivent frustrés, parce que finalement, ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils ont acquis simplement une religion évangélique. Ça n'a rien changé dans leur vie. Alors, ce n'est pas la majorité, hein, mais on a pu le constater. Le père va le laisser aller. Par contre, le père, il a une attitude. C'est que tous les jours, il regarde dans la direction où son fils est parti jusqu'à ce qu'il revienne. Et là, ça nous montre finalement le cœur de Dieu qui regarde, qui scrute, qui fait, qui à un moment donné va se servir de certaines situations que l'on peut vivre dans nos vies pour nous ramener à lui en disant « Mais je t'aime. Reviens encore vers moi. Demande pardon. » Et on sait comment le processus. Hein. Dire, j'irai chez mon père. Et il imagine. Il n'a pas dit, je vais voir mon père et puis voilà, on fera comme si. À un moment donné, il a verbalisé. Le père, lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté au cou. Et moi, je bénis Dieu. Parce que plusieurs fois, le Seigneur m'a sauté au cou. Il m'a pris dans ses bras alors que je ne le méritais pas. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Amen. Et même quand nous sentions encore mauvais, parce que sûrement qu'encore le fils prodigue, il sentait le cochon. Hein. Mais ça n'a pas freiné l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette image-là. C'est Dieu qui voit, il nous regarde. Il nous regarde comme des enfants. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Amen. Un jour, faites-vous, voilà, arrêtez-vous 30 secondes quand... un papa ou une maman, je vois ici Natalia, Tristan, quand ils regardent leurs enfants, arrêtez-vous 30 secondes de loin et regardez quel regard ils portent sur leur enfant. C'est exactement pareil. Le Seigneur nous donne cette image. Tu es mon enfant, je te regarde comme cela, c'est l'amour que je veux déverser dans ta vie. Alléluia. Alors pour chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité de recevoir et d'accepter l'amour de Dieu et de se laisser aimer par le Seigneur. Alléluia, amen. Et puis, le regard du Seigneur, un troisième point, c'est le regard qui appelle. Dieu voit ce que nous pouvons devenir. Si un jour, on m'avait dit, tu sais, un jour, voilà, tu seras pasteur, tu prêcheras à des personnes, des chrétiens qui sont là, tu seras responsable, tu seras président d'association. Si on m'avait dit ça un jour, j'aurais dit, mais c'est impossible dans l'état actuel. Mais Dieu voit plus loin. Donc ce regard, c'est le regard qui appelle. Dieu nous voit, il voit ce que nous pouvons devenir. Dieu nous parle, il parle à notre destinée pour que nous ne voyons plus nos limites. Souvent, on retrouve dans la parole de Dieu, quand Dieu va appeler certains hommes, souvent, ils vont répondre à Dieu en disant, mais Seigneur, regarde mes limites. Vous vous souvenez de Moïse ? Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Seigneur, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. En fait, ce n'était pas là le problème. Le problème, il savait qu'il devait retourner en Égypte. Et en Égypte, il savait ce qui lui attendait. Puis à un moment donné, il y a comme, quand on lit ce passage, comme si le Seigneur, il tapait du poing sur la table en disant, mais tu sais, oh, la bouche, la langue, ben, c'est moi qui l'ai formée en fait. Et moi, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Tout ça pour lui dire, mais tu sais, si moi, je t'appelle, ne compte pas sur tes capacités. Compte sur les miennes. À un moment donné, ça va être intégré hein, dans la vie de Moïse. Moïse, il avait une relation quand même avec Dieu. Moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, waouh. Et pourtant, en Jésus-Christ, on peut avoir cette même relation avec le Seigneur, parce que la voie était ouverte. On peut s'approcher du grand Dieu de l'univers comme Moïse s'approchait de Dieu à ce moment-là. Et lui, pour lui, c'est une faveur ce moment-là. Ce n'était pas tout le monde. Et nous, le peuple de la grâce, grâce au sacrifice de Jésus dont nous nous sommes souvenus ce matin, cette voie, elle est ouverte. Alors, on comprend hein, dans le livre aux Hébreux, il dit que personne ne se prive de la présence et de la grâce du Seigneur. Amen. Vous rappelez? Donc dans ce contexte-là, un contexte où il est abattu, son peuple vit caché, ils vivent dans les rochers. Gédéon, l'ange de l'Éternel, Gédéon, Juges, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut au moment opportun, au moment peut-être où il était au plus bas. Il s'est dit, mais c'est terminé pour moi. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, comment ? Vaillant héros, dites-moi, il était vaillant héros là, à ce moment-là, il se cachait. Il se cachait dans les grottes et dans les trous. Il n'était pas vaillant du tout, encore moins héros. Mais le Seigneur regardait le potentiel qui était là, le potentiel de Dieu, pas le nôtre, le potentiel de Dieu qui était là, qui allait être développé pour la gloire de son nom. Et on sait comment le Seigneur va l'utiliser de façon remarquable. Un autre également, où le Seigneur nous regarde avec son regard, c'est Jean chapitre 1, verset 42. C'est Pierre. Finalement, c'est Simon au départ. Simon qui va devenir Pierre. Regardez, il le conduisit vers Jésus. C'est André, son frère. Il va le conduire à Jésus. Quelle belle transmission de la foi. Finalement, il découvre Jésus. Il dit, mais je ne peux pas le garder. Hein. Donc, il le conduit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, c'est-à-dire je te connais. Fils de Jonas, il précise. Mais maintenant, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » C'est sûr et certain. Là, on arrive, on fait un voyage à ce moment-là, et puis on regarde, nous, la scène un peu de loin. On peut voir au-dessus de la tête de Pierre des points d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, vous connaissez l'histoire, hein, il a fallu un travail du Seigneur. Donc, la fougue de cet homme, puis à un moment donné, encore une fois, le regard dans la cour, regard d'amour, pas accusateur, regard d'amour dans la cour qui va être bouleversant, qui va le transformer. Et puis cet homme-là, il va avoir le privilège de prêcher, le privilège, le courage, des fois on oublie. Hein. À cette époque-là, il risquait sa vie. Hein. Le courage, il va annoncer le message, tout simple. Il n'a pas fait d'études, il n'est pas allé à l'école biblique. Il a parlé avec son cœur. Et puis là, 3000 âmes se sont converties. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse que quand la prédication, elle est là, des âmes se convertissent. Alors peut-être pas 3000, soyons modestes. Une à chaque réunion. Alléluia, amen. Donc, vous voyez le potentiel. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, donc, quand il nous appelle, donc, et le Seigneur, il a préparé des œuvres d'avance. Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Éphésiens 2, 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, hein, donc ça remonte, il y a quelques dimanches en arrière, je vous avais dit le sens original du mot ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Le sens original, le mot, la définition, c'est le mot poémia. Vous êtes le poème de Dieu. Ça a une autre signification, du coup, le verset. Tu es le poème de Dieu. Dieu a écrit un poème sur ta vie. Et comment ça ? Mais en fait, c'est ça. Car nous sommes son poème, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si aujourd'hui on n'a pas compris cette réalité, il nous manque quelque chose dans notre vie chrétienne. De pratiquer les œuvres qui ont été prévues d'avance pour notre vie. Et c'est pour ça que des fois, il semblerait qu'il manquerait quelque chose dans la vie de certains. Il n'y a pas cet épanouissement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, mais ici, ce n'est pas le développement personnel. Ici, il est parlé finalement que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Amen. Alors que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, notre regard est souvent déformé sur nous-mêmes. On le voit hein, à travers certains hommes qui répondent au Seigneur, qui répondent à l'appel. « Mais Seigneur, je suis incapable, je suis le plus petit. » Vous vous rappelez de Jérémie aussi. Donc tout jeune. Alors il faut du courage. Hein, parce que le peuple, il recevait des enseignements qui allaient à l'opposé du message que Dieu avait déposé dans son cœur. Et Dieu lui dit, alors il est jeune, certains, voilà, l'évalue, je sais pas, 15, 16, 17 ans. Et puis, le Seigneur dit, ben, toi, tu vas y aller, tu vas parler. Ben, on comprend Jérémie qui dit, ben, Seigneur, non, je ne veux pas y aller, moi. Ils vont me faire quoi ? Ils vont me tuer, en fait. Mais non, je ne peux pas y aller. Puis le Seigneur, on sait comment il procède. Et notre regard sur nous-mêmes, il est déformé. Personne ne peut quantifier. Personne ne peut savoir. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça tout à l'heure, hein. Le potentiel que le Seigneur a déposé en chacun d'entre vous. Et ce qui fait la beauté de l'Église, c'est que le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous, alléluia, avec des choses qu'il dépose lui-même dans notre cœur. Évidemment, tout ça dans un cadre. Nous n'aimons pas les cadres. ici dans notre pays, voilà, on prône la liberté, je fais ce que je veux. Finalement, l'apôtre Paul, il va régler ce problème en disant finalement, ben, vous savez quoi, ben, le Seigneur m'a libéré de l'esclavage du péché et désormais, je suis esclave de Dieu. On le dit dans nos prières, ça. Seigneur, je suis ton esclave. Waouh. Ça a du poids, ça. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Si je suis esclave du Seigneur, alors je dois faire, finalement, comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là? Il a voulu dire que, finalement, on ne dépend que de lui. On ne dépend que du Seigneur. Alors, c'est sûr que ces paroles viennent nous percuter. Nous avons souvent un regard sur nos vies, souvent déformé. Le regard de Dieu, lui, il peut être prophétique. Vaillant héros. Et créateur, il est encourageant. Gédéon, lui, Dieu voit un héros là où l'homme voit un peureux. Quelqu'un qui se cache, le Seigneur voit. Un jour, je vais raconter cette histoire. Alors, petit à petit, hein, bon, voilà, on découvre un peu. Enfin, je vous raconte un peu ma vie. À un moment donné, j'ai été peintre en bâtiment. Voilà, j'ai été peintre en bâtiment. Et puis, il y avait un grand chantier qui était là. Puis, dans une grande usine. C'était une usine où on fabriquait des tuiles. Des tuiles, c'est dans la région de Castelnaudary. Et puis, là, il y avait un grand four. C'était le plus grand four d'Europe, apparemment. Hein. J'avais discuté avec les ouvriers qui étaient là. Le plus grand four d'Europe. Bon, il était énorme, hein, le circuit. Et moi, ce que j'avais regardé, c'est que souvent, ben, il y avait cette tuile qui était là, qui était frêle, qui n'était pas solide, et qui voilà, était dans un moule. Tout d'abord, le moule. Et puis, il passait par tout le processus de tout le four, puis à la sortie. La tuile, elle était dure, elle était imperméable. Vous voyez l'image, là, les images par rapport à nous. Et là, ça me faisait réfléchir. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Et le Seigneur, en fait, quand il voit, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas au début du four. Lui, il a déjà les regards à la sortie du four. Il nous voit comme un produit fini. Et des fois, même dans nos relations, on doit pouvoir se regarder comme ça. On devrait pouvoir rentrer dans l'église, chacun avec un panneau. Attention, c'est pas terminé. Les travaux sont pas terminés. Le Seigneur a commencé une œuvre dans ma vie. Elle n'est pas terminée. Attention, ça peut piquer. Non. Et si on le réalise, finalement, je me dis, ben, on va, voilà, on va prendre les précautions. Comment on se parle, comment. Parce que des fois, voilà, certains caractères, on démarre assez vite. Et des fois, on peut lancer une pique comme ça, sans vouloir le faire. Mais on doit apprendre à se pardonner les uns et les autres. Le Seigneur, donc, il regarde. Il ne nous regarde pas de la même manière que nous. Il regarde vraiment cette transformation. Et c'est le point suivant. On va terminer. Le regard qui transforme. Le Seigneur, quand il nous voit, il veut nous amener une transformation, alléluia. Et nous devons vivre chaque jour sous le regard de Dieu. Le regard de Dieu libère. Il nous libère du regard d'abord de nous et puis du regard des autres. Le regard qu'on a posé sur nos vies. Alors peut-être, c'est peut-être pas le cas ici, mais peut-être vous l'avez entendu. Il y a des paroles de mort qui sont lancées dans le cœur de certains enfants. Tu es un bon à rien. Ça, c'est des paroles de mort. Ça, c'est des paroles de malédiction. Tu es un bon à rien. Puis, l'enfant, il va capter ces paroles, il va les garder au fond de son cœur, et puis toute sa vie, il va se persuader que c'est un bon à rien. Mais le Seigneur, quand il vient, quand il nous regarde, avec tout ce processus-là, ben le Seigneur vient pour nous transformer. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 2, verset que l'on connaît bien aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi ? Soyez transformés. Alléluia. Amen. Alors avant, les Transformers, ce qu'on peut voir là dans certains films, les Transformers, c'est les chrétiens, c'est nous, on a été transformés en fait. En tout cas, ça devait l'être. Par le renouvellement de l'intelligence, la raison, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et si on se focalise que là-dessus, alors la transformation elle va s'opérer. On ne doit pas, il n'y a pas à avoir d'amalgame entre les pensées du monde et les pensées de ceux et de celles qui ont été régénérés. Alléluia. Amen. Un autre verset qui va nous encourager, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, comment ? Transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. Transformés de gloire en gloire. En fait, ça nous rappelle qu'il y a un processus. Moi, je bénis Dieu. On a discuté vendredi ou jeudi. Et on disait que finalement, les nouveaux qui découvrent la foi, quand ils viennent, quand ils nous exposent, puis quand on les suit, et quand on les aide, quand on les oriente avec la grâce du Seigneur, il y a quelque chose d'encourageant, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, on a vécu ces choses-là. On était au même stade à un moment donné. Et donc, on peut leur indiquer la bonne direction et comment le Seigneur veut opérer cette transformation dans notre cœur. Amen. Nous, nous sommes que des panneaux indicateurs. Et là, ça va finalement réévaluer l'intérêt que l'on peut avoir. Alors, on doit s'estimer les uns et les autres, apprécier, voilà. Mais il faut que la frontière, elle reste quand même, et je l'ai dit tout à l'heure, à ne pas vénérer un homme. Il y a des fois, on vénère les hommes. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, finalement. Et aujourd'hui, on peut le voir, mais que le Seigneur nous aide toujours à garder les deux pieds sur terre. Amen. Et puis Hébreux chapitre 12, verset 2. Donc, étant donné qu'il y a cette transformation, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui lui a été réservée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, il intercède pour son Église, il intercède pour chacun d'entre nous. Vous le voyez, Jésus debout en train de prier, « Seigneur, bénis Mathurin, Seigneur, bénis Seigneur Sylvain, Seigneur bénis chacun d'entre nous, notre prénom, alléluia. » C'est ce qu'il fait en fait, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce regard-là, il va venir nous transformer, amen. Et c'est comme si tous les témoins, parce que, évidemment, alors, je veux dire quelque chose d'exceptionnel, écoutez ça. Hébreux, chapitre 12, le chapitre qui vient avant, c'est Hébreux, chapitre 11. C'est extraordinaire, hein. Vous avez vu quelle révélation vous avez reçue ce matin. Sûr, il y a certains, ils vont retenir que ça, ce matin. Non, tout ça pourquoi ? Pour dire que, évidemment, si je vous avais demandé, quel est le chapitre de la foi ? Hébreux 11. Et en fait, donc, il fait la jonction entre Hébreux 11 et Hébreux 12. Il dit, bien, étant environné d'une si grande nuée de témoins qui sont là en train de nous encourager, Abraham, Isaac, Jacob, David, allez mon frère, ma sœur, ne lâche pas, persévère. Mais c'est la réalité spirituellement, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Alors que le Seigneur nous garde. Et puis là, je voulais terminer là, mais on va juste poursuivre un dernier point. Et puis une fois que le Seigneur il nous regarde avec ce cœur transformé, il y a ce dernier regard du Seigneur qui envoie. Parce qu'on est passé par tout ce processus-là, on l'a vécu, et ensuite le Seigneur veut nous envoyer, Dieu nous envoie comme ses témoins dans le monde. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'auront jamais l'occasion de lire la Bible. Jamais. Des personnes que nous côtoyons. Par contre, ils vont avoir l'occasion de lire la Bible, alors comprenez bien l'image, au travers de ce que nous on véhicule. L'amour, la paix, ce qu'on a chanté tout à l'heure, la joie, l'esprit, toutes ces choses, c'est à l'intérieur de nous, c'est le trésor que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Matthieu 9, versets 36 et 38. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voyant la foule parler de Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on doit voir la foule comme ça. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à prendre ce message, à dire, Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Je veux répondre à l'appel. On l'a vu tout à l'heure. Peut-être que aujourd'hui, je n'ai pas la capacité. Mais Seigneur, viens travailler mon cœur. Et avec le peu que je peux t'apporter, Seigneur, que tu puisses multiplier avec des personnes, des hommes, des femmes, des enfants en âge de comprendre, puissent découvrir le message qui change une vie, qui change même l'éternité. Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. Dernier verset, 2 Corinthiens 5:20. Est-ce que vous savez que vous êtes ambassadeur? Ah, merci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message finalement. C'est un beau message, hein, les personnes qui rentrent. Et qui voit ce verset, n'est-ce pas, Sylvestre? Quand on voit ce verset, soyez réconciliés avec Dieu, parce que quand on traverse, les personnes qui viennent, ils viennent avec des questions, ils viennent, il y a une recherche dans leur cœur. Et le Seigneur veut nous utiliser, chacun d'entre nous, afin que nous servions à la gloire de son nom. Alors voilà comment le Seigneur, lui, il nous voit, qu'il n'y ait aucun échec dans nos vies. Que nous puissions le comprendre, qu'il soit définitif. Et nous puissions réaliser que le Seigneur nous regarde, lui, autrement. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Et que ce matin, nous sortions de ce lieu pleinement convaincus que Dieu nous voit et il ne nous regarde pas de la même manière que nous, on peut se regarder même nous-mêmes, que Dieu soit glorifié. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Seigneur, ta parole, elle est bonne pour nous. Seigneur, elle nous fait du bien ce matin. Elle nous réconforte. Seigneur, de savoir que tu nous regardes. Tu nous regardes vivre. Tu viens sonder nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, ce que nous désirons, c'est que ces paroles qui ont été partagées, Seigneur, que ta parole qui a été partagée, Seigneur, elle puisse pénétrer au plus profond de nos cœurs afin de ne plus nous laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur, parce que c'est sûr, ce matin, quelqu'un avait besoin d'entendre ces paroles. Seigneur, fais ton œuvre par ton Saint-Esprit maintenant. Seigneur, qu'elle soit scellée, Seigneur, gardée dans les cœurs et qu'il n'y ait pas une ouverture au doute, à la peur, certaines choses qui pourraient déstabiliser. Seigneur, je te prie pour nous tous qui sommes là, que nous puissions garder fortement ces paroles dans nos cœurs afin de ne pas nous laisser ébranler. Et Seigneur mon Dieu, que nos racines elles soient plongées, Seigneur, dans ton amour, plongées dans la foi, Seigneur, en ta personne, Seigneur. Alors c'est à ce prix-là que nous allons tenir debout. À toi la gloire et l'honneur. Merci notre Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.